Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'était le 21 juin 1943, il y a donc 69 ans, jour pour jour, la police de sécurité allemande menée par Klaus Barbie arrêtait à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, plusieurs hauts responsables de la résistance, dont Jean Moulin, président du Conseil national de la résistance. Et c'est cet épisode dramatique que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vais essayer de vous relater ces événements tels qu'ils se sont passés, ce qui veut dire que je serai amené à poser aussi un certain nombre de questions qui restent sans réponse définitive, car le drame de Caluire demeure en partie une énigme historique.
Et vous recevez pour l'occasion des invités prestigieux.
En effet, Julia, puisque la directrice du musée Jean Moulin est avec nous dans ce studio, mais aussi Monsieur Daniel Cordier, qui a bien connu Jean Moulin puisqu'il a été son dernier secrétaire. Je les remercie d'être venus jusqu'ici.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On parle régulièrement de Caluire, le lieu de l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943. Mais on oublie de préciser que ce mois de juin 43 aura été l'un des plus durs de l'histoire de la résistance. Il y a eu l'arrestation de Caluire, bien sûr, mais elle est indissociable de tout un ensemble d'arrestations, de celles des stations de métro Muette et La Pompe à Paris, de la villa Bummelburg à Neuilly-sur-Seine, de la gare de Chalon-sur-Saône, nous allons bien sûr y revenir, du Fort Montluc et de l'école de santé militaire à Lyon même. Précisons notamment que le 9 juin, le général de Lestrin, qui était chef de l'armée secrète, a été arrêté à Paris, justement, au métro Muette, et que la réunion clandestine chez le docteur Dugoujon avait notamment pour but de lui trouver un successeur. On parle régulièrement de Caluire, le lieu de l'arrestation de Jean Moulin, mais on oublie parfois de préciser que Jean Moulin n'a pas été la seule victime, loin s'en faut, de ce qu'il faut regarder comme un coup de filet massif, majeur, de Klaus Barbie. On parle de Caluire, mais on oublie aussi de préciser que Caluire est une petite commune qui touche Lyon, au nord du quartier de la Croix-Rousse, cité de banlieue, paisible, avec sa place Castellane toute arborée, avec ses petites maisons au jardin clos de Muret. Ce jour-là donc, un peu avant 3h de l'après-midi, un convoi de voitures noires finit par s'arrêter sur cette fameuse petite place, près de ce qui est devenu le nouveau cabinet du docteur Dugoujon, une maison à deux étages, aux murs couverts de lierre. Des hommes armés surgissent de la voiture au moment où le docteur Dugoujon vient justement d'ouvrir la porte pour raccompagner une cliente. Police allemande, les hommes de la Gestapo bousculent le docteur, se précipitent dans la maison. Certains sont aussi entrés par la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Ils investissent la salle d'attente au rez-de-chaussée. D'autres grimpent au premier étage et arrêtent 5 résistants qui s'y trouvaient. Lassagne, Aubry, Lacaze, Lara, Hardy, méthode dure avec coup de pied, coup de poing, coup de crosse. Klaus Barbie lui-même finira par frapper sur les prisonniers à l'aide d'un pied de table arraché à celle de la salle à manger où sont réunis maintenant les prisonniers, dont ceux de la salle d'attente au rez-de-chaussée. Et dans cette salle d'attente se trouvait notamment Jean Moulin. Alors, je ne vais pas retracer ici, nous l'avons fait dans d'autres émissions, toute la carrière de Jean Moulin. Je reprends, si vous le voulez, chez Henri Noguer, une sorte de résumé de cette remarquable carrière. Jean Moulin a d'abord été chef de cabinet, enfin pas d'abord, mais il a été autrefois chef de cabinet de Pierre Cotte, ministre du Front Populaire, vous savez, ministre de l'Air. Et au moment de l'entrée, de l'arrivée des Allemands, de l'offensive allemande, en mai-juin 40, il est préfet d'Eure-et-Loir. Le 17 juin 40, il a été arrêté parce qu'il refusait de signer un protocole, c'est comme ça qu'on avait appelé le document, un document qui imputait aux tirailleurs sénégalais de l'armée française des violences et des atrocités commises sur des femmes et sur des enfants. En vérité, ces femmes et ces enfants étaient victimes d'un bombardement, tout simplement. Et à ce moment-là, pour ne pas avoir à céder sous la torture, il avait essayé déjà de se trancher la gorge à l'aide d'un morceau de verre, cassé, vous savez, qu'il avait trouvé sur le sol du cachot improvisé dans lequel on l'avait enfermé. Le gouvernement de Vichy ne va pas tarder à révoquer Jean Moulin, qui passe en Angleterre. Il sera parachuté dans la nuit de la Saint-Sylvestre de 1941, chargé par le général de Gaulle d'une mission de coordination de la résistance pour la zone sud. Le 22 mars 1943, il a fait entre-temps un bref séjour à Londres, au cours duquel le général de Gaulle lui a remis la Croix de la Libération et l'a nommé commissaire du Comité français de libération nationale. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est un peu ministre du gouvernement constitué à Londres, le gouvernement de la France libre. Jean Moulin donc est à nouveau en France et cette fois il a une mission nettement plus large. Il est devenu le délégué du général de Gaulle pour l'ensemble du pays. Il continue à présider le comité directeur des mouvements unis de résistance, ce qu'on appelle les MURS, qui regroupent les principaux mouvements de toute la zone sud, hein, combat bien entendu, libération, franc-tireur. Il doit constituer à ce moment-là le Conseil national de la résistance qui va rassembler non seulement les principaux mouvements de résistance des deux zones, mais aussi des représentants de partis politiques clandestins et des principales tendances politiques traditionnelles. Le 27 mai 1943, Jean Moulin a présidé rue du Four à Paris la première séance du Conseil national de la résistance, qui donc a été un succès. Alors, résumé ainsi en quelques phrases, tout ça a l'air simple, presque facile. En vérité, vous imaginez l'extrême difficulté de toutes ces missions dans une France occupée, que dis-je, quadrillée, surveillée par l'occupant. La Gestapo bénéficie d'agents partout. La transmission des nouvelles, des messages et notamment des rendez-vous est hautement aléatoire. Elle repose sur un système de boîte aux lettres mis à disposition par des volontaires, un système hautement dangereux. Du reste, depuis longtemps, Jean Moulin, dont le dernier pseudonyme de la résistance est Max, Jean Moulin se sent menacé. Dans un rapport du 7 mai, il écrit ceci « La police de Vichy et la Gestapo n'ignorent rien de mon identité et de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Je suis décidé à tenir le plus longtemps possible, mais si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs. » Il est parfaitement conscient de ce qu'il risque, évidemment, Jean Moulin. Le 14 juin 1943, c'est le jeune Daniel Cordier qui accourt à Lyon pour annoncer à Jean Moulin l'arrestation 5 jours plus tôt du général de Lestrin, donc le chef de l'armée secrète. Arrestation que jusque-là, il ignorait. C'est ici qu'il faut avoir à l'esprit les dissensions naturelles qui se faisaient jour en cette fin de printemps 43 entre les divers mouvements de résistance. Et en l'occurrence, la priorité pour Jean Moulin, c'est d'empêcher que les vieux adversaires de Delestrin, les résistants du réseau Combat, ne profitent de son arrestation pour mettre la main sur l'armée secrète, à présent décapitée. Il a l'intention de nommer un inspecteur général des formations militaires au nord, ce sera Raymond Aubrac, et un au sud, André Lassagne. Encore faut-il que les principaux responsables de la zone sud soient d'accord, d'où l'idée d'organiser cette fameuse réunion qui va être la réunion fatidique. Du côté de combat, Aubry, convoqué à la réunion, craint de s'y retrouver en minorité face à tout un groupe d'hommes qui serait acquis au point de vue de Jean Moulin. D'où l'idée de se faire accompagner par un certain René Hardy, dont nous allons beaucoup reparler. Hardy qui vient d'expliquer qu'il a été arrêté par les Allemands à la gare de Chalon-sur-Saône et qu'il aurait réussi à s'évader. Entre-temps, le lieu du rendez-vous a été fixé. Ce sera donc à Caluire, chez le docteur Dugoujon, un ami de Lassagne. On a soumis à Jean Moulin les noms des participants. André Lassagne donc, évidemment. Henri Aubry, je vous le disais. Le colonel Lacaze, un proche de Delestrin. Le colonel Schwarzfeld, un autre proche que Delestrin avait même pressenti pour lui succéder. Bruno Lara, qui est un jeune volontaire de la France libre. Raymond Aubrac. Et puis c'est tout. Jean Moulin approuve cette liste seulement. Aubry ne lui a pas précisé que lui-même se ferait accompagner du dénommé René Hardy, qui dans la résistance porte un pseudonyme, on l'appelle Didot. Or, ce Didot est suivi par un agent de la Gestapo, ou plus exactement, une femme qui appartient à la résistance, mais qui a été piégée par un agent de Klaus Barbie et arrêtée en avril 1943. Elle a été conduite à l'hôtel Terminus, interrogée par Barbie, et cette femme, Edmée de Lestrade, a finalement été relâchée, faute d'éléments, mais à la condition que chaque semaine elle se présente au siège de la Gestapo, ce qu'elle fait, précisons-le, avec l'accord intéressé de ses chefs de réseau de la résistance. Elle peut en effet, à chaque fois qu'elle va à la Gestapo, glaner de précieux renseignements. Or, si l'on en croit les différents témoignages d'Edmé de Letraz, le matin du fatidique lundi 21 juin, la Gestapo est venue la chercher chez elle pour la conduire à une réunion où se trouvait Dido, donc René Hardy, et au cours de cette réunion, on lui aurait expliqué qu'une très importante réunion de résistants devait avoir lieu à Caluire, que Dido devait y participer et qu'elle aurait pour mission de le suivre, de repérer l'adresse où il entrerait et d'en informer évidemment la Gestapo qui attendrait un peu plus loin. Au pied du terminus du funiculaire, en l'occurrence. Au sortir de cette réunion, Edmé de Letraz affirme avoir prévenu non pas son chef de réseau, qu'elle n'a pas trouvé, mais un contact d'urgence qui lui aurait promis de transmettre le message. Et puis, l'après-midi, elle a donc effectué sa mission. Elle suit Hardy, alias Dido, lui-même en compagnie d'un homme qu'elle ne connaît pas. Ils prennent le funiculaire, puis le tramway. Ils se rendent jusqu'à la place Castellane, à Caluire. Elle affirme avoir pris son temps pour informer la Gestapo, espérant, dit-elle, que le message d'alerte serait communiqué à temps aux participants. La question qui se pose néanmoins, c'est de savoir pourquoi, dans ces conditions, la police allemande s'est rendue non pas directement place Castellane, chez le docteur Dugoujon, mais dans un premier temps, impasse Verchères, à l'ancienne adresse du docteur Dugoujon. Comme si l'information dont disposait Klaus Barbie était non pas l'adresse de la réunion, mais le nom de celui qui l'hébergeait. La suite, vous la connaissez, je vous l'ai raconté brièvement tout à l'heure, l'irruption, l'arrestation et ses conséquences. Nous allons revenir, bien sûr, sur toutes les conséquences. Reste évidemment le cas de René Hardy. Notons qu'au moment de l'arrestation, on ne lui lie les mains dans le dos qu'avec de la corde, alors que les autres sont menottés. Il est emmené le premier devant la maison, une voiture à temps, portière ouverte. Or, au moment où on va le pousser dans cette voiture, il décoche un violent coup de poing à son gardien et parvient à s'échapper. Le voilà qui détale. Deux ou trois coups de feu sont tirés, mais la mitrailleuse en faction devant la maison n'a pas tiré, ça il faut le préciser. René Hardy est blessé. Finalement, il sera arrêté par la police française chez une amie où il s'était réfugié. Il sera remis à la Gestapo, qui le fait soigner à l'hôpital militaire de la Croix-Rousse, d'où il va s'évader, décidément.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités, Franck, aujourd'hui sur Europe 1, Daniel Cordier, qui a été le secrétaire de Jean Moulin. Il est l'auteur de Jean Moulin, La République des Catacombes, tomes 1 et 2 chez Gallimard, qui est réédité aujourd'hui en folio histoire. Également avec nous, Christine Lévis-Touzet, qui est historienne, spécialiste de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et qui dirige le mémorial du maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris, et le musée Jean Moulin. Tout ça, ce sont des musées de la ville de Paris, Christine Lévis-Touzet.
Là, du reste, le mémorial a un petit peu changé de nom il y a un an. C'est le musée du général Leclerc, la Libération de Paris.
Il est toujours délicat d'avoir à résumer une affaire aussi complexe que celle de l'arrestation de Caluire, évidemment. Et j'aurais notamment beaucoup aimé avoir le temps de revenir sur tout ce qui avait précédé cette arrestation. Puisque je ne l'ai pas fait dans mon récit, je pense que nous aurons le temps, bien sûr, de le faire ensemble tout de suite. Car il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un ensemble d'opérations de police menée par les Allemands à ce moment-là, et non pas seulement d'une arrestation séparée des autres. Et il y a eu 10 personnes arrêtées à Caluire. Jean Moulin, on le sait évidemment, est mort des suites de ses tortures. Le colonel Schwarzfeld est mort en déportation. Bruno Lara aussi. Le colonel Gastaldo, dont je vous disais un mot tout à l'heure, est mort, on peut lui dire, des suites de la déportation. André Lassagne est mort dès qu'il est rentré lui aussi de Caen. Henri Aubry a été condamné à mort, mais libéré fin décembre 1943. Le docteur Dugoujon et le colonel Lacaze ont été libérés quant à eux au bout d'un an. Raymond Aubrac a été libéré, alors lui par la force, hein, on connaît cette célèbre affaire du coup de main organisée par sa femme. Il se trouve que Raymond Aubrac est mort le 10 avril dernier et nous allons entendre dans un instant une archive où il nous raconte, justement il parlait au micro de Jean-Pierre Elkabbach, je vous envoie ça dans un instant. Juste un mot avant sur le cas du dixième, c'est-à-dire Hardy. Alors, l'affaire Hardy fera l'objet d'un procès en 1947. Il était défendu par le célèbre avocat maître Maurice Garçon. Procès qui aboutit à un acquittement faute de preuves. Et alors, de nouveaux éléments interviennent entre-temps qui aboutissent à un second procès en 1950 et de nouveau un acquittement. On peut dire évidemment que ces deux acquittements judiciaires vont peser très lourd sur l'évolution de l'historiographie de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vous ai promis cette archive de Raymond Aubrac, disparu le 10 avril dernier. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Moi, j'avais rendez-vous avec Jean Moulin d'abord le dimanche après-midi au parc de la Tête d'Or pour discuter un petit peu de ce que nous allions faire à cette réunion. Nous sommes restés longtemps, probablement entre 1 heure et 2 heures. Max ne m'a pas donné le lieu du rendez-vous. Il m'a demandé d'être vers 2h ou 2h30, place Carnot.
Pour vous, c'était Jean Moulin, le chef de la résistance, ou c'était Max ?
Non, ça avait d'abord été Rex, 18 mois plus tôt, quand je l'avais connu. Et à ce moment-là, c'était Max. Et je n'ai connu le nom de Jean Moulin et l'identité de Jean Moulin qu'après sa mort. La vraie cause de la réunion de Caluire, c'est l'arrestation quelques jours avant, le 9 juin, du chef de l'armée secrète que nous appelions le général Vidal et qui en réalité était le général de Lestrin. Et la réunion appelée par Max avait pour objet de réorganiser le commandement de l'armée secrète à la suite de cette arrestation sur laquelle nous avions très peu d'informations. En fait, nous sommes arrivés en deux groupes. Le premier groupe est arrivé probablement juste à l'heure ou tout au voisinage de l'heure et s'est installé au premier étage où Dugoujon les a installés. Max Schwarzfeld et moi-même, nous sommes arrivés très en retard et la bonne nous a ouvert la porte et nous a fait entrer au rez-de-chaussée dans la salle d'attente du médecin avec les malades qui attendaient. Alors les Allemands sont arrivés quelques minutes après notre arrivée, Max Schwarzfeld et moi-même, et ils ont investi la maison. Nous avons vu déboucher des hommes avec des mitraillettes. Ils sont arrivés en même temps par tous les côtés. Et ils nous ont tous intimé l'ordre de ne plus bouger avec leurs mitraillettes. Il faut tout de même noter que dans le groupe, il y a un homme de trop qui n'était pas convoqué. Ça a été une de nos surprises, une de nos inquiétudes.
Et c'était René Hardy.
Donc, vous venez d'entendre Raymond Aubrac au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes très heureux d'accueillir ici, dans les studios d'Europe 1, Daniel Cordier, qui était donc le dernier secrétaire de Jean Moulin. Il faut peut-être que nous précisions tout de suite, Monsieur Cordier, que ce mois de juin 43 est un mois terrible pour la résistance, qui subit des coups terribles avant même l'arrestation de Caluire.
Oui, il y a un problème dans ce mois de juin, c'est que le Conseil de la Résistance était réuni à Paris par Jean Moulin et tout de suite après, il est parti, à la fin du mois, à Lyon. Et je devais, pour qu'il y ait une liaison, aller une fois, deux fois, trois fois, enfin, je veux dire, quand il y avait quelque chose, il fallait que j'aille le voir. Mais je n'ai jamais...
Vous aviez la liaison entre Paris et Lyon, en l'occurrence.
Oui, j'avais tout à Paris, j'avais tout le secrétariat.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y avait un problème majeur, c'est la distribution de l'argent, avant tout. Mais il y avait des tas de...
Le nerf de la guerre.
Et alors, il y a eu deux réactions de la part des résistants. C'est que, quand je n'avais pas d'instruction, finalement, je donnais ce que je pensais, enfin, etc., etc. Mais c'est vrai que la résistance étant installée à Paris depuis ce Conseil de la résistance, ben, au fond, que ce soit pour la zone sud ou la zone nord, personne ne comprenait à Paris pourquoi Jean Moulin s'installait en zone libre et qu'il n'est jamais revenu. Parce que je suis allé en permanence.
Et le prévenir, le tenir au courant, notamment de l'arrestation du général de Lestrin.
Bien sûr, et c'est la dernière fois pratiquement où je l'ai vu. Et c'est vrai que là, il y a un point d'interrogation. Parce que je n'ai... Vous savez, c'était très difficile, c'était mon patron, j'étais quelqu'un de très très jeune, mais l'ensemble des résistants... me passer leur temps à me dire, mais enfin, pourquoi il ne vient pas? Nous avons des choses très importantes. C'est à Paris que tout ce réseau, qu'est-ce qu'il fait en chaud? C'était toujours la même chose. Et au fond, bon, j'en ai parlé une fois à Jean Moulin qui m'a dit, écoutez, je viens d'arriver en zone sud, bah, qu'ils attendent un peu, j'aurai tout le temps de les voir. Ça l'a agacé. Et après, quand il devait rentrer à la fin du mois, puisque il a été arrêté la veille de son retour, j'avais décidé de lui parler, enfin, de lui dire, mais enfin, pourquoi? Ça fait presque un mois que vous avez quitté Paris, et pourquoi? Parce que tout se passe à Paris maintenant. Évidemment, pas sur ce ton-là, bien entendu.
Et est-ce que vous avez une idée de la réponse qu'il aurait pu vous donner?
Pour quelle raison était-il
Je n'étais pas. Je n'étais pas parce que bon, il y avait le problème freiné, mais freiné.
Alors, vous nous expliquez en un mot qui était freiné justement. Hein.
Oui, freiné était au fond probablement le résistant le plus important, le plus. C'était un militaire, c'était un capitaine, et au fond, il avait la passion. Et des troupes comme ça.
Et il n'avait jamais admis que le général de Lestrade soit à la tête de l'armée secrète, disons-le.
Mais et il n'a jamais admis que Moulin représente quoi que ce soit, parce que Freinet estimait que la résistance était lui. Je simplifie. Oui, je simplifie, mais je veux dire, pour que l'on comprenne.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, si vous voulez, le général de Gaulle, lorsque Moulin a fait son voyage en 1941, à l'automne 1941, il a expliqué les contacts qu'il avait, et le général de Gaulle, immédiatement, j'ai donné au musée de la Résistance le brouillon du général de Gaulle, de cet ordre de mission-là. C'est le premier ordre de mission du mois de novembre. Et à ce moment-là, il y a une chose très nette. C'est lui le chef de l'armée secrète. Ce ne sont pas les résistants. Alors, là, c'est à Londres que l'on commande la résistance. C'est lui le général de Gaulle qui est le chef de cette armée. Et tout le reste, ils sont libres. Oui. Ils ont des journaux, c'est pareil, ils peuvent publier ce qu'ils veulent et tout ça, c'est la liberté, et ils donnent de l'argent à Moulin pour aider les journaux, des choses comme ça. Mais sur ce point-là, il n'a jamais cédé. Et ça a duré jusqu'à la libération.
Mais c'est très important comme précision. Je rappelle ou précise pour ceux qui nous rejoindraient que vous venez d'entendre donc Daniel Cordier, qui était le dernier secrétaire de Jean Moulin. Nous nous retrouvons dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous revenez aujourd'hui avec vos invités sur le drame de Caluire.
Et oui, ce drame de Caluire, cette arrestation de Jean Moulin et d'un certain nombre de personnalités très importantes de la Résistance, c'était le 21 juin 1943. Nous célébrons donc aujourd'hui le 69e anniversaire. Alors, évidemment, on parle toujours et beaucoup de Caluire, parce que c'est là qu'a été arrêté Jean Moulin, mais je disais que pendant tout ce mois de juin, il y a eu des opérations de police terribles menées par les Allemands, et que l'arrestation du général de Lestrade a lieu, elle, très tôt, le 9 juin. Il faut remettre donc les choses dans leur contexte, si je puis dire, Christine Lévis-Touzé.
Oui, je crois qu'il est indispensable de remettre les choses en perspective, dans le contexte aussi de la guerre, ce qui est important. Toutes les arrestations du premier semestre 1943 avec ce point d'orgue le 21 juin, mais aussi avec de nombreuses arrestations après également. Alors, cette répression s'est accrue aussi bien de la part des Allemands que du gouvernement de Vichy, forces de police, milices, etc. Parce que depuis le débarquement anglo-américain au Maroc, en novembre 1942, au Maroc et en Algérie, et compte tenu des saisies et des prises qui ont été faites par les services allemands du SD, notamment à Marseille, et de l'importance des effectifs, les Allemands sont convaincus qu'il va y avoir une opération de débarquement en Provence précédé d'organisation de sabotage dans le sud de la France. Et comme le dit à juste titre Jean Birazema, et ça faisait partie des choses, c'est vrai que les résistants, et dans un objectif noble, ont eu tendance à augmenter leurs effectifs. Mais de ce fait, compte tenu des prises, il y a eu l'arrestation au mois de mars d'un adjoint de Lestrade, Morin Forestier. Oui. Ensuite, des papiers trouvés au secrétariat d'Henri Freinet. Et puis, fin avril, d'un dénommé Multon, le 28 avril, qui a accepté de devenir un contre-agent, c'est-à-dire au service du CIPO-SD de Marseille.
Donc de la police allemande.
De la police allemande. Et qui est prêté ensuite au service de l'Abwehr et à Lyon.
Service secret allemand.
Et qui joue un rôle évidemment dramatique. Parce que résistant Multon, c'est lui le véritable traître. Qui devient un agent. Il y a tout ce qu'il connaît. et des arrestations de plus d'une centaine. Alors ceci est codifié dans des documents allemands, dont on a parlé à plusieurs reprises. Il y a eu deux rapports de Kaltenbrunner, chef du SD, qui avait succédé à Heydrich, et qui ont été retrouvés dans les archives de la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire des affaires étrangères allemandes, où il est fait état de cela. C'est ainsi qu'on a l'organigramme, les Allemands ont l'organigramme de l'armée secrète en France.
On a eu la preuve un peu tardive que les Allemands disposaient de renseignements extrêmement étendus, en fait.
Oui, très étendus.
Alors, pardon, Daniel Cordier.
Oui, non, il faut faire attention. C'est que pendant que Moulin était à Londres au printemps de 1943, les Allemands ont pris toutes les archives de l'armée secrète et ont arrêté environ, je crois, c'est 13 officiers, etc. Donc,
ce que j'indiquais tout de suite, ils mettent la main sur beaucoup d'archives de l'armée secrète, absolument, ce qui explique cet organigramme du reste qui a été publié à plusieurs reprises en allemand, et ces archives de l'armée secrète. Et au-delà, il y a un autre rapport plus tardif, de la fin juin 1943, plus explicite sur le résultat du travail d'investigation et qui est un réalisme tragique de terrain, c'est-à-dire couper et décapiter la résistance pour l'empêcher d'œuvrer dans ses opérations, compte tenu des circonstances et d'évolution de la guerre.
Daniel Cordier, il y a une chose qui est toujours étonnante lorsqu'on étudie l'histoire de la résistance, c'est de voir à quel point les risques étaient grands. Les messages sont communiqués souvent non cryptés. Ils sont communiqués en langue courante et parfois dans des boîtes aux lettres qui sont, j'allais dire, ouvertes à tous les vents.
Là, vous avez la vérité. Vous n'avez pas le récit mythique, mais que je comprends parfaitement des quelques résistants qui ont échappé, ils ont construit, bon, parce que c'était
la grande légende, c'est normal.
Oui, mais ils ont construit une légende, mais au fond, pourquoi pas, la France, après la guerre, la France avait besoin de légende, vous comprenez, avec bien De Gaulle, oui, et tout ça, et De Gaulle d'ailleurs. Alors, à ce propos-là, je me permets de vous signaler que les archives allemandes ne sont pas encore ouvertes. Parce que là, vous...
Ça ne serait tardé.
Tous les jeunes... Non, si, ça ne sera pas ouvert avant la mort du dernier résistant, des derniers résistants. Mmh. Ça, c'est fini. Et donc, on peut estimer que les archives allemandes qui se trouvent en Amérique, en Allemagne, en Russie, en France, ce sont des...
Disséminées, bien sûr, par tous les occupants
successifs.
Mais vous savez,
ce sont des archives extraordinaires, parce que dites-vous que, par exemple, le rapport de Caluire, qui de la Gestapo, qui annonce l'arrestation de Caluire, s'est tiré à 52 exemplaires. Nous en avons un. Bon, parce qu'on a eu... Bon. Mais normalement, on ne devrait rien avoir. D'ailleurs, on n'a rien d'autre. Parce que, après la guerre, tout ça a été enseveli. Parce que, on ne voulait pas savoir la vérité. Parce que...
Et tout ça ressortira un jour.
Ah, bien sûr. Non. Mais...
Juste un mot, avant que je n'envoie la publicité, juste un mot sur ces imprudences commises, mais qui étaient peut-être nécessaires ou inévitables.
Non, c'était pas nécessaire, mais il faut voir l'âge des gens. Enfin, nous, si vous voulez, nous étions une dizaine qui arrivions d'Angleterre. Nous avions été formés à la résistance, à des choses comme ça. Mais on nous parachutait et nous avions quelques heures de travail par jour et il fallait s'arrêter, etc. Bon, écoutez, ça n'existait pas. Il n'y avait personne. Donc il fallait travailler, il fallait... Et alors, du matin jusqu'au soir, on travaillait et nous avions 20 ans. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans et que, par hasard, vous avez un danger qui se présente à vous, c'est la panique. Mais le reste du temps, c'est la belle vie. Il ne faut pas oublier ça.
Et
ça a été la résistance.
Ça aussi, ça fait partie du contexte, en quelque
sorte.
Alors la grande question qui se pose, c'est évidemment celle des responsabilités dans cette affaire, et notamment du rôle de René Hardy. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où
la voix de Mouloudji sur Europe 1 qui nous chante la complainte du partisan Franck.
Une chanson écrite par Emmanuel Dastier de la Vigerie. Alors, Christine Lévis-Touzet, on était en 1943, évidemment.
Exactement.
Christine Lévis-Touzet, je posais la question de René Hardy, bien entendu. On peut dire que la France est plus ou moins divisée sur ce sujet. Ça, c'est un grand sujet de débat. On pourrait presque appeler ça un serpent de mer de l'histoire contemporaine. Ce qui est certain, c'est qu'à deux reprises, René Hardy est jugé, 1947 et 1950, et dans les deux cas, il est acquitté.
Oui, il faut préciser qu'en mai 1950, il est acquitté à la minorité de faveur. Et que des pièces ont été versées au dossier, puisque entre les deux procès, on s'est aperçu qu'il avait dissimulé son arrestation dans la nuit du 7 au 8 juin à Chalon-sur-Saône. Ce que je voudrais préciser, c'est que René Hardy est un authentique résistant du mouvement Combat. C'était un instituteur de formation qui a été un cadre de la SNCF, qu'il a rejoint Combat par l'intermédiaire de Bénouville, et qu'il c'est lui qui a mis au point le plan de sabotage Résistance Faire. Alors, voilà sur l'aspect résistant de René Hardy.
Oui, ça, on ne peut pas en douter, mais alors ensuite...
Pas du tout. Oui. On ne peut pas douter non plus des documents allemands. Il y a trois documents allemands et deux documents allemands qui existent. Le rapport Kaltenbrunner, dont je parlais tout à l'heure, fin juin 1943, et qui indique clairement que, sous le pseudonyme de Didot, dit le rapport, René Hardy a fait des aveux et a notamment évoqué ce plan de sabotage faire, lequel, ce quel aspect, du reste, sera revu lors de la deuxième instruction et du deuxième procès. Et puis, il y a l'autre rapport, le rapport Flora, qui est un document intéressant de la fin juillet 1943, qui est un document interne au service allemand et qui a été retrouvé en septembre 1944 au SD, au CIPO SD de Marseille. Ce sont les archives de Dunker de l'âge, le chef du SD, et qui indique très précisément que René Hardy est un Gegenagent, c'est-à-dire un agent qui a été retourné et au service du CIPO SD. Voilà en termes de documents allemands. Alors ces documents allemands qui avaient été produits lors du premier procès, c'est le premier procès, c'est 1947, il faut imaginer le contexte, c'est après la guerre, ça divise les résistants, etc. Et sont un petit peu traités avec mépris. Dans le second procès, il y a bien...
1950.
En 1950, on a bien pris en compte, justement, cette livraison de ce plan de sabotage faire, etc. Alors, au demeurant et au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est l'attitude de René Hardy. Quels ont été les moyens de pression sur lui? Alors, on sait qu'il avait une amie de cœur, Lydie Bastien, dont il était éperdument amoureux et dont le lieutenant Barbie du CIPO SD de Lyon connaissait l'existence.
Et même très bien.
Très bien. Alors, je n'irai pas pour plus loin parce que, comme historienne,
ce sont des
tant
éléments,
qu'on
n'a
pas
cas, voilà.
La preuve écrite que Lydie Bastien était peut-être autre chose, et il y a eu des pistes avancées, et notamment par Pierre Péan, indiquant qu'elle aurait peut-être été un agent de la BER, en tous les cas, j'y mets le conditionnel.
La diabolique pour de Caluire, c'est le nom du livre de Pierre Péan.
Pour l'heure, je m'abstiendrai d'aller plus loin. Mais en tous les cas, c'est un moyen de pression, bien évidemment.
Est-ce que vous pensez que... je parle à Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Est-ce que vous pensez que René Hardy a trahi Jean Moulin ?
Vous savez, là, vous posez une question difficile parce que j'ai essayé d'être un historien d'un côté. J'ai passé 30 ans de ma vie à écrire l'histoire de Jean
acteur
Moulin.
Acteur et historien.
Et par ailleurs, j'ai été un résistant actif dès le premier jour. Alors, ça dépend qui vous interrogez. C'est-à-dire que si vous m'interrogez en tant que...
L'avis de l'historien, je viens de l'entendre, pour tout vous dire. C'est l'avis du résistant qui
Alors,
m'intéresse.
Alors, l'avis du résistant, oui. Il n'y a pas de doute pour moi, mais que Hardy est coupable. Seulement, en tant qu'historien, je ne peux pas reconnaître ce que je viens de vous dire, parce que nous n'avons pas assez de documents. Pensez que il y a toutes les archives allemandes qui sont séquestrées, qui sont en Allemagne, en Amérique, en France, enfin, qui sont partout. Et là, on trouvera ces documents qui sont tirés, je le rappelle, à 52 exemplaires. Or, nous n'en avons qu'un sur l'arrestation de Jean Moulin. Alors, il y en a déjà 52 sur cette arrestation, mais il y a toute la suite et tout ça.
Bien sûr.
Et donc, quelles qu'étaient les destructions de les... Bon, on retrouvera toute l'histoire, pour moi, il n'y a aucun doute. Seulement, vous savez, c'est environ une centaine d'années. Pardonnez-moi de vous décourager un peu.
J'allais ajouter que Jean-Pierre Azéma et Dominique Veillon, qui ont vraiment poursuivi leurs investigations, ont travaillé sur les archives, les rapports de gendarmerie au Blanc, dans le Limousin, en envoyant un certain nombre de choses extrêmement précises.
Merci infiniment, Christine Lévis-Touzé, d'être venue éclairer notre lanterne sur une affaire extrêmement nébuleuse et complexe. Et merci infiniment à Daniel Cordier. Je regrette de n'avoir pas eu plus de temps à vous offrir, mais j'espère que vous reviendrez nous voir et que nous parlerons cette fois non plus de Caluire, mais de Jean Moulin. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Je me le tiens pour dit. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, nous allons parler d'aromathérapie. Certes, il ne s'agit pas d'une science exacte, mais dont les vertus sont incontestables en matière de soins. Par exemple, en hôpitaux, on l'utilise, mais comme aussi pour l'usage domestique. C'est aussi, par exemple, très bien pour aussi bien pour les petits rhumes que pour l'acné. C'est un exemple, on en aura plein d'autres. On va apprendre comment se servir justement de ces huiles essentielles. Et on attend vos questions au 3921. C'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr.
Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Julia.
Sur Europe 1, bien entendu. À demain, Franck.